Bonjour à tous. Vous allez bien? Je reconnais quelques visages. Même quand vous faites la tête, quand je demande si ça va bien, puis que ça a l'air d'être plutôt moyen de devant, on voit tout, hein, c'est super. Bon, j'ai pris un tout petit peu de publicité aussi avec. Vous allez voir sur la table. Je ne vais pas faire des longues présentations puisque Yann en a déjà dit quelques mots. Vous dire que j'ai passé une soirée très sympa chez les Roulets et puis qui s'est poursuivi dans un bar à sirop avec Yann, n'est-ce pas? On a passé un bon moment, bah oui, je bois du sirop, regardez le personnage. Et je suis heureux d'être avec vous, j'ai pris un tout petit peu de publicité, je ne sais pas si je vous avais dit que je fais des voyages avec les jeunes une fois par année dans différents endroits du monde, plutôt dans les pays défavorisés, à la visite du travail de Compassion. Qui est-ce qui connaît Compassion et le système de parrainage d'enfants? Super, excellent. Donc je fais quelques voyages avec eux, enfin depuis quelques années. Et cette année, on va partir au Pérou. Alors, je suis assez content du public que j'ai aujourd'hui parce que vu l'équilibre d'âge, et je veux offenser personne parce que c'est juste une chose pour laquelle on n'y peut rien du tout, je me réjouis parce qu'on a de fortes chances que le Seigneur distribue des dons de libéralité à plusieurs d'entre vous pour que vous puissiez éventuellement offrir le voyage ou parrainer le voyage d'un jeune, parce qu'on fait des voyages avec des gens qui ont entre 18 et 35 ans, et comme quelques-uns d'entre vous ont dépassé cet âge-là, peut-être que le Seigneur touchera vos cœurs et que vous pourriez dire à un jeune qui galère un peu ou qui aimerait partir avec nous mais qui n'a pas les moyens, lui dire « Écoute, moi je vais t'aider ». C'est une bonne nouvelle, non? Donc voilà, je vous laisse vous arranger. Et puis, si vous aimeriez anonymement, par rapport aux jeunes, hein, me dire « Ah ben moi, je suis prêt à cet effort-là. » On peut se retrouver en fait culte, bien sûr. C'est toujours un grand plaisir pour moi de faire ces voyages. On était l'année dernière au Togo. Et c'est beau de voir des jeunes qui s'arrêtent au moment du débriefing et qui disent « Mais je ne vais plus jamais oser râler sur ce qu'on me sert dans mon assiette au repas parce que je découvre qu'en d'autres endroits du monde, peut-être les gens vont manger, s'il y a à manger, tous les jours la même chose. » Et on a des jeunes qui sont complètement retournés de l'intérieur. Et c'est pour ça que je fais ça. Parce que je pense que c'est nécessaire que nos yeux s'ouvrent sur une réalité qui est bien plus étendue que ce que nous avons le privilège de vivre ici, dans une petite partie de l'Occident. Par rapport au reste du monde, c'est une petite partie. Bon, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. J'aimerais aller avec vous dans la parole de Dieu. Et normalement, il va y avoir deux, trois choses qui s'affichent là. Tu peux mettre le premier titre. C'est un peu barbare. Peut-être que tu ne te sens pas trop touché par tout ce qui est leadership. Mais j'aimerais vous partager deux, trois choses que j'ai trouvées dans la parole de Dieu qui m'ont beaucoup encouragé. J'aimerais voir avec vous de quelle manière le Seigneur aimerait faire de nous des hommes et des femmes qui amènent quelque chose dans l'environnement où ils se trouvent. Autrement dit, des hommes et des femmes qui vont avoir plutôt tendance à influencer autour d'eux plutôt que de juste se laisser porter par le mouvement, les modes ou, excusez-moi l'expression, les grandes gueules qui se trouvent autour de vous. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir encore la suivante? Parce que je sais que la plupart du temps, quand on aborde cette dimension d'influence ou de leadership, on a des gens qui vont mettre en avant le désir que le Seigneur aimerait que nous servions les uns les autres. Et vous pouvez voir, ceux qui lisent un tout petit peu l'anglais, cette référence. Personnellement, je m'accorde à ceux qui ont mis en doute un petit peu l'histoire des chiffres, qu'on trouve la notion de leader seulement 6 fois dans la Bible, alors que la notion de serviteur, on la trouve 900 fois. Et, si vraiment on va dans le détail, on va voir que les chiffres donnés ici ne tiennent pas la route. Et en fait, la sensibilité que j'aimerais amener ce matin est de vous dire, mais je ne pense pas que le Seigneur, d'une manière générale, ait envie qu'on mette en opposition ce qui est du rôle de l'influence, du chef, du leader. Ce n'est pas à mettre en opposition avec le cœur de serviteur et l'attitude du serviteur, parce que tantôt Jésus a montré une direction, tantôt il en a montré une autre. Et je crois que plusieurs textes de la parole de Dieu vont vraiment nous encourager à, oui, avoir quelque chose à dire aux gens autour de nous, mais avoir un cœur qui est prêt à les servir. Et comme ça, j'espère gagner tous les plus réticents d'entre vous. Mais c'est vraiment le souci de mon cœur qu'on ne mette pas l'un et l'autre en opposition. On peut mettre la suite. Et j'aimerais partir avec vous dans quelque chose de très simple. Vous savez ce que c'est un kawé? Vous utilisez ce mot ici? Ça existe depuis quelques années, hein? Moi, j'ai fait pas mal de colonies de vacances quand j'étais enfant. Et je me souviens, au moment de faire les valises, on mettait les noms et prénoms sur chaque chaussette et tout ça. C'était un travail infernal que ma maman a fait pour nous. Mais à cause de ça, il s'est passé beaucoup de choses dans nos vies. Et il y avait bien sûr la mention, la référence au Kahoué qu'il ne fallait pas oublier. Parce que quand on part faire des colonies de vacances dans l'Oberland bernois, tantôt on rate les vacances parce qu'il va pleuvoir 10 jours. Et tantôt on a des belles vacances parce qu'on a un peu de soleil. Le Kahoué, un imperméable. Mais au départ, c'est juste une marque. C'est une marque d'anorak, mais comme il existe beaucoup de marques, aujourd'hui on voit beaucoup de personnes qui ont du quechua, mais au départ c'est une marque. Tu peux mettre la suivante aussi. S'il vous plaît, pas de sensibilité, pro-PC, pro-Mac. Hier j'ai enseigné toute la journée avec des amis à la formation jeunesse, et le président qui est Yves Maté, qui travaille beaucoup avec les jeunes, est venu sur le devant aussi avec son matériel Mac en disant, mais pour les gens comme moi, qui à un moment donné ne comprennent plus toutes ces fenêtres qui s'ouvrent dans PC, pour les gens qui ont un esprit limité en informatique, Mac est meilleur. Donc on doit mettre le prix, mais c'est pour un peu les plus simples. Et je pense que je fais partie de ce lot-là. Mais peut-être vous avez constaté que Mac, qui au départ est une marque, est devenu un nom qu'on utilise pour dire c'est un ordinateur. Et un jour, j'ai rencontré un ami qui arrivait en retard au travail, et la raison qu'il a donnée était de me dire, c'est parce que ma Nespresso était en panne. Je dis, quoi, ta Nespresso? C'est quoi une Nespresso? Et c'est quoi alors une Nespresso? C'est devenu une machine à café. Tu peux mettre le suivant. Et de la même manière, on a aujourd'hui un mot qu'on utilise communément dans certaines entreprises ou certaines églises. On parle de leadership ou de leader, mais un leader, c'est quoi? Faut pas avoir fait beaucoup d'anglais pour savoir ce que c'est. Ouais, c'est un responsable, c'est comme ça qu'on l'utilise en français. Mais que va faire? C'est celui qui conduit. Tu peux mettre le suivant. Et ça va être mon premier point avec vous ce matin. Un leader qui conduit. Ça dit ce que ça dit. C'est juste une traduction littérale. Avec mon anglais basique, je m'en sors. Mais ce que j'aimerais voir avec vous, c'est que ce n'est pas juste un terme qu'on utilise dans certaines grandes sphères. Mais je tire ça de la parole de Dieu. Et j'aimerais voir avec vous le début du psaume 1. Donc si vous avez des Bibles papier, vous pouvez les chercher. Allez à psaume 1. J'aimerais lire avec vous versets 1 et 2 pour le moment. J'aimerais qu'on pose un fondement. C'est que le Seigneur veut faire quelque chose avec nous qui va amener une certaine conduite. Et depuis quelque temps, je ne vois plus le leadership comme une somme de connaissances. Ce n'est plus des savoir-faire ou des savoir-être qu'on cumule pour devenir un homme, une femme d'influence. Mais je crois que la parole de Dieu a vraiment quelque chose à nous dire. Et vous pouvez lire ici avec moi. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Ce que j'aimerais vous dire, c'est que votre conduite détermine votre conduite. C'est simple, hein? Mais votre conduite personnelle, la conduite de votre vie, va déterminer la manière de conduire d'autres personnes. Votre conduite détermine votre conduite. J'étais avec un ami il y a quelques jours en arrière qui disait, mais quelquefois on a un langage qui n'est pas pareil à notre vie. Il disait, voilà, moi j'enseigne à mes enfants des valeurs d'honnêteté, de vérité, de respect. Et quand on prend le bus ensemble, je ne prends pas mon ticket. Alors quoi? Comment on peut montrer quelque chose qui soit cohérent, une vie cohérente. Donc, notre conduite détermine notre conduite. Et je puise ça de ce psaume 1. J'ai découvert, il y a quelque temps en arrière, la preuve de ce que je pressentais. Je pressentais depuis longtemps que, en termes de leadership ou de conduite, ce n'était pas juste question de savoir y faire avec les personnes. Et bien sûr, je suis très favorable aux conférences, aux bons livres qui nous aident à travailler avec des personnes autour de nous. Et on a besoin de progresser aussi là-dedans, parce que quelquefois, j'allais dire surtout dans les églises, on croit que tout va être facile avec l'onction et le Saint-Esprit va tout faire. Mais non, je ne pense pas que quand on vient au Seigneur, le Seigneur nous ôte notre cerveau. Donc travaillons, étudions, cherchons, lisons. Mais en termes de conduite, j'ai découvert une perle là-dedans. Quand le texte dit « Heureux celui qui trouve son plaisir » avant dernière ligne, « qui trouve son plaisir » dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit, il y a quelque chose qu'on rate en français. C'est la notion de la loi de l'Éternel. Tu peux mettre la suivante. La Torah, tu trouves ça dans top Bible, hein, tu mets ton verset, tu vas sur études, c'est super, hein, utiliser ça, il y a des gens qui ont bossé pour nous là. Tu vas voir que Torah regarde dans la définition, il est question de la loi, de la direction. Donc on dit, ben oui, il est question de la loi du Seigneur, c'est écrit comme ça dans ma traduction en français. Mais ce qui est intéressant, c'est d'aller tout en bas où vous avez la bulle rouge, c'est que ça vient de Yara qui veut dire montrer ou diriger. Autrement dit, la loi du Seigneur montre, la loi du Seigneur dirige. La loi du Seigneur fait de nous un leader qui conduit. Vous suivez? Parce que cette loi va montrer quelque chose, va diriger dans une certaine direction. Autrement dit, la loi du Seigneur montre des limites. Et ça, souvent, on le sait. Mais j'aimerais qu'on voit ces limites maintenant dans le sens que le Seigneur ouvre une voie, montre une direction. Donc quand le texte dit « Heureux l'homme qui médite la loi du Seigneur », ça fait de cet homme ou de cette femme quelqu'un qui va conduire. Un leader, quelqu'un qui va influencer autour de lui. Un homme, une femme qui va dire, mais je ne dis pas juste non à cela pour dire non ou parce que je suis réactionnaire, mais parce que, et on est capable d'enseigner à nos enfants, on est capable d'enseigner à des amis, on est capable de prendre des gens avec nous qui découvrent Jésus et on peut avoir ce rôle qui conduit, ce rôle de leadership parce que juste on médite cette loi du Seigneur qui nous a dirigés, qui nous a montré une certaine direction et à notre tour, ça a dit que ça montre quelque chose et ça fait de nous des bons influenceurs. C'est compréhensible ce que je vous dis ? Ça vient juste de la parole de Dieu. Mais quelquefois on dit, oh, psaume, ouais, on connaît. Aucun de nous n'a envie d'être malheureux. Il y a une recherche en nous d'un épanouissement, d'un bonheur. Et ce psaume va dire, mais heureux celui qui... On va parler tout à l'heure de la gradation des méchants, des moqueurs et tout ça. Mais heureux est celui... Pas encore. Heureux reste à celui d'avant. Si tu ne peux pas, ce n'est pas grave, tu laisses comme ça. Fermez les yeux. Heureux est celui qui va méditer cette loi, jour et nuit. Qui va l'aimer, la mâcher, y revenir encore, être dans la présence du Seigneur. Et ça fait de nous des leaders qui conduisent. Des hommes, des femmes qui ne suivent pas les modes, qui ne suivent pas les tendances. Ouais, c'est super, merci. Des hommes, des femmes qui trouvent leur plaisir dans ce que le Seigneur a montré, dans les limites que le Seigneur montre. Et c'est de cette manière-là que la récompense, ma manière de lire et de le comprendre aujourd'hui, la récompense sera ce bonheur. Moi, je ne vise pas la récompense, je vise la première étape. Après, ce que le Seigneur va donner, ce sera du bonus. Mais je vois que ça se réalise dans ma vie. Des hommes, des femmes qui ne suivent pas les habitudes des autres ou les avis des autres. Tu sais, à chaque fois, je suis un petit peu désemparé quand j'arrive dans les fêtes de famille chez nous. On a une spécialiste du matin. Vous avez le matin ici ? Ça a fermé pour un temps, mais je crois qu'ils l'ont ressorti, non ? Le journal le matin. Ouais, voilà. C'est ça, hein ? Ouais. Alors, la spécialiste du matin, dans ma famille, fait que quand on a les rencontres de famille, toutes les discussions vont passer, en fait, la discussion va être faite d'un titre à l'autre. Mais tu sais, il m'a fallu du temps pour me rendre compte de ça. Pendant des années, quand on avait ces rencontres de famille, ben... Je suivais cette personne un peu dans les discussions. Elle amenait une pensée, elle amenait une polémique ou quelque chose. Et un jour, quand la fête de famille se terminait, je me suis mis dans le canapé et j'ai pris les journaux qui traînaient là et je suis tombé sur le matin. Et j'ai feuilleté ça vite fait. Et punaise, je me suis dit, mais c'est la rétrospective de ma journée. De ça, on a parlé. Page 3, ah oui, elle est venue sur le sujet. Page 4, jusqu'à ce que je comprenne que cette personne de ma famille... lis ce journal tôt le matin, elle arrive à la rencontre de famille, et bam, 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 page 1, page 5, page 7, et tout y passe. Et je me suis dit, mais Nicolas, mais comme t'as été bête, t'as rien vu de ça. Il m'a fallu plusieurs rencontres. Donc, quand je reviens à mon thème ici, je dis, mais aujourd'hui, je veux pas être quelqu'un qui suit juste les délires et les pensées des personnes autour de moi. Je veux être quelqu'un qui montre quelque chose de Dieu, quelqu'un qui influence, qui amène plutôt des discussions qui vont plutôt construire, plutôt que les titres d'une mauvaise nouvelle après l'autre, pour faire référence à mes rencontres de famille. Quelqu'un, je veux être quelqu'un qui ne suit pas les modes ou les habitudes, et quelqu'un qui, à force de méditer cette loi de Dieu, est marqué de ses directives et peut influencer les gens autour de moi. Un leader qui conduit. Voilà de quoi le Seigneur a besoin pour le réveil. On va parler du réveil tout à l'heure. Tu peux mettre le suivant, s'il te plaît ? Encore le suivant. J'arrive à mon deuxième point, qui est un leader qui bouge. On reste dans ce psaume 1 et on observe, tu peux mettre le suivant s'il te plaît ? On observe une gradation, j'ai souligné en rouge. On observe une gradation qui concerne le mouvement, parce que le texte va dire « Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas. » Et si tu remarques bien, c'est en fait quelqu'un qui marche, qui va ralentir, qui va s'arrêter et qui va s'asseoir. Autrement dit, la parole de Dieu va dire « Mais voilà la mauvaise voie, voilà la voie de celui qui gentiment commence à se calmer, à s'arrêter. » Et finalement, il va se figer dans ce qui est terrible et dans ce qui nous éloigne de Dieu. C'est ça que moi j'appelle ça, s'installer dans le péché. Ça veut dire que tu t'assieds et tu n'en bouges plus. Tu restes là et t'es à l'aise. Et le psaume 1 va dire, celui qui est heureux, c'est celui qui bouge. Tu comprends pourquoi mon deuxième point s'appelle un leader qui bouge? Parce que le conseil des méchants, les pécheurs, les moqueurs... Même le fait qu'on prenne trois mots, ça accentue encore ce mécanisme de ralentissement qui est mentionné par suivre, s'arrêter et s'asseoir. Et celui qui est heureux, ce n'est pas lui. C'est celui qui va méditer la loi de l'Éternel. Et donc, je résume ça en disant, le Seigneur cherche pour le réveil des hommes et des femmes qui bougent. Pas bouger pour bouger ou faire n'importe quoi ou s'exciter dans tous les sens. J'en ai connu des amis comme ça, juste parce qu'ils étaient pentecôtistes. Tu avais l'impression qu'il y a tout qui était instable dans leur vie. Mais non, c'est pas ça que veut dire le texte. Parce que quand je dis le Seigneur cherche un leader qui bouge, c'est pas juste la tête de Nicolas qui a créé ça. J'ai trouvé ça dans le texte. Regardez avec moi. Laisse ça parce que je crois que je l'ai pas mis. Quand il est question de trouver son plaisir dans la loi de l'Éternel, avant-dernière ligne. Avant, on a parlé de la loi de l'Éternel qui montre qui dirige. Mais le verbe utilisé pour dire trouver son plaisir signifie littéralement bouger, courber, plier. Donc ça veut dire que le Seigneur cherche des gens qui bougent. Autrement dit, des gens qui se plient aux ordonnances du Seigneur. Des gens qui disent « Ok Seigneur, tu veux ça ? D'accord. Tu veux que j'aille là ? Ok. Tu veux que je me taise ? Ok. Tu veux que je fasse ça ? Ok. Tu veux que je fasse un pas en arrière ? Ok. » Des gens qui bougent selon ce que le Seigneur demande. Et c'est de cette manière-là que nous devenons des hommes et des femmes heureuses, au moment où on se plie à la loi du Seigneur. Je trouve ça fantastique. Un leader qui bouge, un leader qui dit « Ok Seigneur, tu veux que j'aille ?» Et regardez les héros bibliques. Dieu a dit, ils ont fait. Dieu a dit, ils ont fait. Élie, mon préféré. Bon, à un moment, il se plante, mais ça, c'est un autre enseignement. J'ai un super message sur la dépression d'Élie, mais c'est un autre sujet. Mais avant cette dépression d'Élie, à tout bout de champ, Dieu dit « Va là, il y va, va vers telle veuve, il y va, va s'arrêter, va au torrent, là. » C'est comme ça. Après, des fois, on lit ça, puis c'est des belles histoires, puis après, on se dit pour nous, comment Dieu nous parle. Le problème, c'est pas comment il nous parle, c'est qu'est-ce qu'on va faire de ce qu'il nous dit, je crois. C'est là qu'est le grand défi. Quel leader, quelle personne d'influence Dieu cherche pour le réveil ? Des leaders en mouvement ? Des gens qui ne s'arrêtent pas sur des voies de garage ? Des hommes, des femmes qui bougent avec le Seigneur ? Qui se plient à ses ordres ? Qui se soumettent à ses manières ? Qui se soumettent à ses demandes, même quand c'est incompréhensible ? Tu peux mettre la photo suivante ? Est-ce que vous avez entendu parler de Richard, du pasteur là, veste de motard, mais col de pasteur, Ricky Del Rio, pasteur à New York, quelqu'un connaît ? Je vous ai jamais parlé de lui ? C'est une belle histoire. Cet homme-là, avec sa femme, ont décidé de fonder une église en 1982 et ils ont travaillé. Une dizaine d'années, en 1992, ils ont fondé officiellement l'église. Mais il faut savoir que, avant de commencer le travail, cet homme-là est allé voir la police. Police de New York, ceux que tu vois dans tes séries, les mêmes, sauf il y a quelques années en arrière. Il allait les voir, il a dit « Bonjour monsieur, bonjour madame, où est l'endroit le pire de New York ?» Et ils lui ont dit « C'est Clinton, Stanton, avenue D, et la troisième rue. C'est là où on tue les gens, c'est là où la drogue fait la loi, c'est là où les gangs se combattent l'un l'autre, c'est là le pire. » Ils ont dit « Ok, alors moi je prends mes enfants et ma femme et on va habiter là. Tu peux mettre le suivant. » Parce qu'il avait un raisonnement simple. Il a dit, on va s'établir là où il y a le plus de pécheurs afin de voir Dieu plus souvent. Moi, je pleure quand je lis des trucs comme ça. Je dis, mais Seigneur, tu fais des hommes comme ça, puis après, tu fais des gars comme moi. Alors, c'est quoi le problème ? Le problème, c'est pas comme le Seigneur nous fait, je crois. C'est comme nous, on se défait. Bon, bref. C'est intéressant parce que Ils ont travaillé 19 ans dans ces conditions. Les gars à qui ils parlaient, qu'ils invitaient, c'était les mêmes peut-être à propos desquels ils disaient aux enfants « Mais faites gaffe, traînez pas trop avec eux. » C'était des gangsters, des vendeurs de drogue, des proxénètes. Et c'était ça leur début d'église. 19 ans. Et après 19 ans de boulot, il y a eu les avions qui ont foncé dans les tours. Vous vous souvenez, le 11 septembre 2001 ? Mais ce gars, la photo d'avant, il était le premier pasteur sur les ruines. Parce qu'il habitait là. Et il est devenu la star. Parce qu'il a été le premier à aider, à soigner, à faire un job de pasteur. Quand il raconte son histoire, il va dire, mais il a entendu les bruits, il a vu les avions, il a compris. J'ai à peine le temps avec ma grosse Harley Davidson de passer au bureau chercher mon petit col blanc. Parce que c'est à cause de ça qu'ils vont me laisser entrer sur les ruines. Parce que sinon, j'ai pas ma place là, je suis pas pompier, je suis pas secouriste. Donc il a foncé à son bureau, il a accroché son truc. Il est arrivé sur les ruines, on lui a dit, bien sûr on a besoin d'aide, ça crie, il y a des bouts de corps. Bien sûr on a besoin d'aide. Et il est devenu une star dans sa ville. Quelques années passées ont passé encore, où bien sûr, tout à coup, son église est sortie de l'ombre, enfin l'église de Jésus plutôt, est sortie de l'ombre. Et voilà qu'est arrivé l'ouragan Sandy. Je ne sais plus en quelle année c'était 2012, mais il faut vérifier sur Wiki, je ne suis plus très sûr. Et en fait, à cause du travail 19 ans avec des bandits, à cause de il a vu Dieu, il a senti Dieu, il a travaillé avec Dieu pour 19 ans dans des situations difficiles, il était prêt pour le 11 septembre. Et quand quelques années plus tard encore l'ouragan est venu détruire une partie de la ville, en 24 heures, il a fait jouer ses contacts. En 24 heures, il a rassemblé avec ses contacts l'aide humanitaire, la boisson, la nourriture pour 20 000 personnes atteintes dans le désastre de la ville qui s'effondrait et qui était sous l'eau. 24 heures, ils ont appelé cette campagne « Grace in the Storm ». La grâce arrive dans la tempête parce qu'il y a des hommes qui sont prêts à se plier aux ordres du Seigneur. Des hommes qui sont prêts à dire « Ok Seigneur, là où il y a le plus de péché, moi je vais y aller parce que j'ai plus de chances de te voir. » Et Dieu cherche des hommes et des femmes de cette trempe-là, des hommes qui bougent avec lui. Et c'est de cette manière-là qu'un certain réveil spirituel, une certaine action de Dieu peut avoir lieu en nous et autour de nous. Dieu cherche un leader qui bouge. J'aimerais arriver au troisième point, tu peux le mettre s'il te plaît. Le suivant encore. Un leader pour le réveil. Parlons quelques instants du réveil. C'est une partie un peu qui est devenue comme un petit testament pour moi parce que aujourd'hui je travaille avec des collègues qui portent le tampon église de réveil, mais moi je ne viens pas de ces églises-là. Moi j'ai grandi dans une église traditionnelle évangélique avec une trinité à deux personnes, ça veut dire on avait le Père, on avait le Fils. Saint-Esprit, on ne connaissait pas trop. J'ai développé beaucoup de peur, beaucoup de crainte de la puissance de Dieu, du Saint-Esprit parce que j'avais aucune idée. Il est qui, lui ? Je le voyais dans la Bible, mais je ne le voyais ni chez mes frères et sœurs dans la foi, ni dans ma propre vie. Et donc, voilà, tout ça pour dire, je fais court, que je ne viens pas du tout de cette histoire du réveil ici, qui a atteint la Suisse romande. Et donc, quand j'ai fait mon stage pastoral, j'ai juste été pris dans une église qui est une église de réveil. Donc, j'ai commencé à bosser là au milieu d'eux. J'ai découvert qu'ils sont un peu différents dans la louange. J'ai prié un peu différemment. Et puis, un peu tout ça, quoi. Je l'ai appris. Et un jour, j'ai cherché des renseignements intellectuels. Mais c'est quoi l'histoire de ces églises ? Et j'ai lu quelque chose qui ne m'a pas laissé indifférent parce que je découvrais qu'à un moment donné précis dans la Suisse, Dieu a fait quelque chose que actuellement je n'ai plus revu encore en Suisse. Et tu peux mettre la suite. J'ai tiré ça simplement d'un site des églises de réveil de France où il raconte qu'en 1935, 12 000 personnes rencontre Christ en Suisse lors des campagnes de George Jeffries. L'année suivante, il revient. En deux semaines, ce sont 2000 personnes de plus qui se convertissent à Jésus. Qui va venir au culte la semaine prochaine ici ? Bouge ta main. Mais maintenant, vous ne regardez pas. Ce n'est pas pour vous mettre la pression l'un l'autre. Hein. Ce n'est pas ça du tout. Okay. Qui va venir dans deux semaines ? Okay. Alors imagine le même scénario que ce matin dans deux semaines. D'accord ? Tu arrives, tranquille, t'aimerais garer ta voiture, mais tu ne comprends pas trop pourquoi il y a autant de voitures ce jour-là. Bon, bref. Mais finalement, derrière une honte, tu te dis « ça ne va pas trop déranger ». Tu entres, enfin, tu essayes d'entrer parce qu'il y a une colonne qui va jusqu'à dehors, tu ne comprends pas trop ce qui se passe. Alors tu prends ton portable, tu appelles le pasteur Yann, tu dis « ce qui se passe là ?» Bref, il dit « dépêche-toi si tu veux t'asseoir ». « Quoi, dépêche-toi si tu veux t'asseoir ?» Imagine, tu arrives ici, tu en as 2000. Mais c'est ça, hein ? Ça change un peu quand même, hein ? Et quand j'ai lu ça, je dis « mais ils mentent, les gars ». Mais bon, on a toujours le choix de se monter la tête ou bien de juste être réaliste. 12 000 personnes de plus qui rencontrent Jésus. Ça m'enthousiasme. Je dis, mais Seigneur, c'est génial. T'es tellement extraordinaire. C'est juste normal qu'il y en ait tant de plus qui t'applaudissent et qui t'aiment parce que t'as changé ma vie, forcément. Mais je vois pas encore cette cadence dans ma région actuellement. Je sais pas comment c'est ici. Mais j'aimerais ça. Donc quand je découvre ça, je dis, oui, il y a des temps, visiblement, que Dieu veut, que Dieu permet, où les choses se passent un peu à une autre échelle, à une autre vitesse que ce qui se passe aujourd'hui dans mon quotidien. Et c'est ça que j'appelle le réveil. Des moments où c'est, les cœurs sont prêts. Les gens applaudissent Jésus facilement. Les gens disent, mais j'en ai besoin de ce que tu as. Je lis la Bible, je la lisais jamais, je comprends rien, s'il te plaît, viens m'expliquer. Je souhaite ça pour chacun de nous. Parce que là, on voit un peu plus la largeur de Dieu. On va à la suite, s'il te plaît. Le réveil, c'est comme ça que je l'ai compris actuellement. Il se développe dans ma vie lorsque je cherche Dieu et demeure dans sa présence. Il s'étend dans la vie des autres lorsque je collabore avec mon Dieu pour aller et faire ce qu'il me demande. Autrement dit, c'est le psaume 1 qui dit ça. Parce que quand on médite la Torah qui nous montre, quand on médite jour et nuit, non seulement on devient des hommes heureux, mais on devient des hommes et des femmes réveillés au contact du Seigneur. C'est ce que dit ma première phrase. Et ensuite, ça va s'étendre aux autres. Et c'est ça que j'ai voulu mentionner avec mon deuxième point qui disait un leader qui bouge selon les conseils du Seigneur. C'est qu'il va se passer en collaboration avec Dieu. Quand on va pour faire ce que Dieu nous demande, il va se passer des choses dans la vie des autres personnes. Et c'est là que le réveil s'étend et qu'il commence à se passer des choses dans les gens autour de nous. À la suite de notre prière, à la suite de notre témoignage, Dieu agit. Et c'est comme ça que je comprends le réveil aujourd'hui. Et je comprends de plus en plus alors que je veux vivre dans ce psaume 1. Je veux être un homme qui médite la parole de Dieu, qui cherche la présence de Dieu et un homme qui obéit vite. Je vous ai parlé déjà de ça. Le samedi, c'est jour de ménage chez moi. Alors hier, j'ai eu de la chance parce que j'enseignais à la formation jeunesse, donc j'ai raté le ménage. Merci chérie, merci les enfants. Et malheureusement pour eux, ça arrive assez souvent, donc on doit trouver un petit peu des solutions au niveau de la famille. Mais hier, ils ont fait le ménage, sans moi, mais ils ont fait le ménage. Mais imagine qu'un samedi, je travaille pas pour le Seigneur et je suis à la maison et donc je fais le ménage. Donc on commence la journée avec les tartines, le café, on fait le petit déjeuner. Et ensuite, je vais dire à mes enfants, bon, première étape, vous allez ranger vos chambres. Si ce jour-là, mes enfants me disent, attends, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez des enfants, hé. Faut pas me la faire, hein. Quand les enfants disent « attends », ça veut dire quoi? Comment?
Ça va négocier.
Ah, ok. Ils sont bien laitiers, alors. Tu as des enfants?
Comment?
Tu as des enfants?
Oui, deux ados.
Ok. Ah, bah alors, j'aimerais bien qu'on commence direct avec la négociation. Comment?
Ça veut dire jamais.
Ah, ils sont comme les miens. Tu as des enfants? Moi aussi. Attends, ça veut dire non, je ne le ferai pas. Et c'est bête, hein, c'est qu'une question de nettoyage. Mais maintenant, quand Dieu nous parle, et que c'est le moment où les leaders que nous sommes devons bouger, si on dit attends Seigneur, qu'est-ce qui va se passer? On ne le fera pas. Parce que attends veut dire non. C'est les enfants qui m'ont appris ça. Autrement dit, et là je cite Rick Warren qui a dit « L'obéissance immédiate vous en apprendra plus sur Dieu que des années de débats théologiques. » Je vais le redire parce que ça dérange un peu. « L'obéissance immédiate vous en apprendra plus sur Dieu que des années de débats théologiques. » À chaque fois que je redis ça ou que je le relis, je me sens très petit. Et je dis « Mais Seigneur, j'obéis à quelle vitesse ? Je veux désespérément être un homme. » Qui bouge avec le Seigneur, un homme pour le réveil, un homme que le Seigneur peut utiliser. Et donc, j'ai envie de nous encourager, de dire, mais ce n'est pas le moment de juste rester dans nos cahiers des tâches et de faire les choses parce qu'on a toujours fait comme ça, ou parce qu'on nous a dit de faire comme ça, ou parce que la tendance actuelle est de faire comme ça, mais faire, parce qu'à force de méditer la parole de Dieu, le Seigneur parle, la loi de Dieu montre, et alors c'est le moment de nous plier, c'est le moment de bouger pour nous. Et je termine avec cette histoire dramatique que j'ai pas encore tout compris, qu'on trouve dans Exode 4. Exode 4, Moïse quitte Madian. Au passage, il a appris comment on devient un peu un berger ou un gardien d'animaux. Au passage, il a trouvé aussi une femme, la famille commence à grandir. Mais là, c'est le moment de quitter Madian, parce que Dieu dit, il y a une mission, va sortir mon peuple. Exode 4, vers le verset 24, lisez ça ce soir si vous aimeriez passer une nuit d'insomnie. Sinon, lisez-le demain ou cet après-midi. On voit que Dieu va attaquer Moïse. Dieu attaque Moïse et vient le mettre dans une situation tellement pitoyable que Moïse ne peut plus rien faire. Il doit être à terre ou fiévreux ou je ne sais pas dans quel délire parce que le texte ne me l'a pas encore dit, mais c'est écrit que Dieu attaque Moïse. Tu te dis, mais attends, il vient d'être envoyé, la gloire de Moïse se prépare et Dieu, bam, vient lui faire la guerre. Et tu vas voir dans le texte que ce qui va sauver sa vie, c'est sa femme qui va circoncire son fils. Et quand j'ai vu ça la semaine passée, j'ai dit, mais c'est quoi cette histoire? Déjà, c'est sanglant, c'est bizarre, c'est incompréhensible. Moi, je connais juste Moïse qui ne veut pas aller en Égypte. Finalement, il veut quand même y aller et bam, les miracles arrivent et puis c'est le grand Moïse, quoi. Mais cette histoire-là, et en fait, à force de discuter avec plusieurs, j'ai en fait découvert l'enjeu de la famille. C'est qu'en fait, vraisemblablement, chez les Madianites, la circoncision se fait plus tard. C'est un peu le signe, le rituel de passage pour devenir un homme vers 13-14 ans. Par contre, les Juifs, ils font ça au 8e jour. Sur un petit bébé trop mignon. Attends, c'est Dieu barbare ou quoi? C'est quand même intéressant de savoir que le niveau qui permet la coagulation, c'est là qu'il est en pic. Hein, donc, Dieu n'est pas crétin. Mais, quand je lis ça, je découvre un homme comme moi, qui a une femme, et des fois, on n'est pas tout à fait en accord. Et peut-être, comme ça, vous pouvez garder votre lecture de la Bible, d'accord? Peut-être que Madame Moïse a dit « Oh, pas question, tu vas pas nous faire ça au bébé !» Et Moïse, pour la paix du ménage, a peut-être dit « Ok, chérie. » Le temps passe, Dieu parle, la mission arrive. Et alors qu'il va libérer le peuple de Dieu, le peuple élu, choisi, notamment circoncis pour montrer la différence, la circoncision étant aussi le signe de l'alliance, Dieu attaque Moïse pour dire « Ça ne peut pas se passer, que tu vas guider un peuple et ton fils, il n'est pas comme ce peuple. » Tu peux pas commencer à faire les choses alors que de ta famille. Et quand j'ai commencé à mettre ça ensemble, je dis, oser faire face à nos épouses. Et là, maintenant, les dames, vous pouvez fermer les oreilles, parce que je vais parler un peu aux hommes. On en a tous besoin selon notre rôle et notre sexe. Non, pas tous. Il y a des choses qui sont typiquement difficiles pour les hommes. Il y a des choses qui sont typiquement difficiles pour les femmes. Et je ne suis pas un spécialiste de ça, mais je suis un homme. Donc je vois ce qui est simple et pas simple pour moi. Et je suis marié à une femme. Et je vois un peu ce qui est simple et pas simple pour elle. Ce qui fait que des fois, on fait la fête ensemble. Et des fois, ça chauffe un peu. Donc voilà, ça ne fait pas de moi un spécialiste, mais ça fait de moi un homme qui a observé deux, trois choses quand même. Et quand je tombe là sur Moïse, je dis, mais c'est intéressant. Et je ne veux pas en venir au rôle de monsieur et madame, pour froisser personne, parce qu'on a tous nos combats, tous on en a à des endroits différents, selon nos histoires et tout. N'empêche que Dieu attaque Moïse. Là, il y a un truc qui doit être fait. Et ce jour-là, Moïse, il ne peut pas le faire. Il est tellement attaqué, il est au sol, donc c'est madame qui va le faire. Ça me fait réfléchir. Ça me fait réfléchir sur ce que le Seigneur attend de nous. Tous sexes confondus, hein. Hommes et femmes, on a tous pour notre grade. Hein. Quand le Seigneur se pointe dans un moment où il veut mettre le doigt sur quelque chose, qu'on soit un monsieur ou une madame, ça ne change rien du tout. Hein. Lui, il est très grand et nous sommes très petits. Hein. Vous connaissez ces moments-là? Ah. Et on a besoin de ça. Je ne sais pas si ça va venir. Essaye encore d'aller plus loin, s'il te plaît. Ça devrait être le dernier. J'aimerais lier le verset 3 à ce qu'on a déjà vu. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Et dorénavant, vous ne pourrez plus lire que le verset 3, parce que c'est lié au verset 2 qui parle d'être avec le Seigneur, dans sa loi. Il y a des choses, des moments où il indique des limites. Et il y a des moments où le Seigneur nous demande quelque chose, y compris dans l'épisode avec lequel je termine de Moïse, sur lesquels nous résistons, que nous ne faisons pas ou que nous différons dans le temps. Gardez en tête l'obéissance immédiate. Mais ensuite, alors qu'on se plie, alors qu'on bouge, quand le Seigneur demande, arrive le verset 3. C'est bon ça, hein? Est-ce qu'on peut prier un instant ensemble? J'ai envie de dire, Seigneur, comme Pierre qui s'exclamait que c'est toi seul qui as les paroles de la vie. J'ai envie de dire, Seigneur, mais Abreuve-nous encore de ton conseil et de ta présence. Seigneur, sans toi, nous sommes désespérés. Seigneur, même avec le peu que nous avons compris de toi, quelquefois, on est tracassé, on ne sait pas trop exactement ce que tu attends, on ne sait pas trop quelle décision on va prendre au final dans telle ou telle situation. Seigneur, sauve-nous encore. Seigneur, intellectuellement, nous disons, mais oui, bien sûr, nous voulons méditer ta parole jour et nuit. Seigneur, je prie pour cette grâce que quand nous te rencontrons, tu parles au point que nos vies changent. Je prie pour mes amis ici, Seigneur, pour un temps de révélation proche de toi, un moment de joie, un moment où on entend ta voix, où on est bien avec toi, où on comprend ta parole. Seigneur, je te demande du courage pour ceux qui sont découragés dans cette démarche, des forces nouvelles. Tout mon cœur, je crois que tu es encore celui qui change tout dans nos vies. Tu es encore celui qui peut tout faire. Tu n'as pas de limite. Tu es Dieu. Alors Seigneur, relève l'espoir pour celui et celle qui n'en a plus ce matin. Seigneur, augmente encore la foi. Tu dis que juste un peu, ça suffit pour déjà déplacer les montagnes. Alors augmente ça dans nos vies, Seigneur, au moment où on a l'impression d'être au bout du rouleau. Seigneur, redonne ce que nous ne pouvons plus créer nous-mêmes en nous. Tout ça, je te le demande dans le nom de Jésus. Fais grâce, Seigneur. On n'est rien sans toi. On a besoin, Seigneur, de ta force. Et Seigneur, pour ceux qui sont en bonne disposition ce matin, bravo et merci Seigneur, parce que c'est bon ces moments de la vie où on est vigoureux, plein de zèle, plein d'idées. Merci pour eux. Je me réjouis avec eux, Seigneur. Alors quand tu parleras encore avec précision, s'il te plaît, Seigneur, favorise l'obéissance immédiate dans nos vies. Nous ne voulons pas être comme nos enfants qui quelquefois nous ont dit « Attends ». Nous ne voulons pas être comme nous-mêmes nous avons été par le passé quand nous avons dit « Oh non, Seigneur ». Apprends-nous, Seigneur, à être dans ta nouveauté, dans ta fraîcheur, dans ce que tu demandes pour nos vies aujourd'hui. Et Seigneur, toute ma reconnaissance monte vers toi, parce que tu es grand, parce que tu es Dieu, parce que tu es notre sauveur en Jésus. Alors merci, Seigneur, pour toute cette joie à disposition. Il en était question dans ce psaume, c'est heureux. Et celui qui médite ta parole. Seigneur, merci pour cette joie. Je prie que tu la déverses encore avec abondance sur mes amis, parce que nous... Je m'attends à ce que nous soyons les hommes les plus heureux sur la terre, à cause de toi. Seigneur, s'il te plaît, fais-nous rire encore aujourd'hui, parce que nous avons une vraie raison d'espérer, un vrai sauveur, un vrai Dieu puissant. Merci pour cette dimension qui fait que nous pouvons lever la tête et regarder à toi. Tu dis que quand nous tournons le regard vers toi, nous sommes rayonnants de joie. Alors dans ce sens-là, Seigneur, je prie pour que tu bénisses chacun de mes amis ici ce matin, pour que nous puissions ensemble être rayonnants de joie. Pas avec une vie simple et débarrassée instantanément de tout. Oui, tu as la capacité de le faire. Mais même si nous devions encore attendre une délivrance, une réponse ou autre, nous pouvons lever le regard vers toi et rayonner de joie. Parce que tu as promis d'être avec nous tous les jours. Alors merci. Amen.